des cultes, exploration de planches iconiques du 9e art. Ce mois-ci, on se penche sur l'histoire du chien d'Éluron, le chien qui nourrit jamais, un chef-d'œuvre de Marcel Gottlieb. Alors, Gottlieb, riche actualité éditoriale. On a l'intégrale Gottlieb, l'année 67, une collaboration entre Fluide Glacial, la revue fondée par Marcel qui fête ses 50 ans, et les éditions d'Argo. Donc, on voit là Guéluron, le personnage qui se développe. On voit les rubriques à brac et on a aussi la biographie en BD qui vient d'être faite, Gottlieb, une vie en dessin, par Julien Solé, le fils de Jean Solé, et Arnaud Le Gouefleck, une très belle histoire qui a été prépubliée cette année dans Fluide Glacial. Alors, Marcel Gottlieb, Guéluron, c'est un personnage secondaire, né en 62 dans Vaillant, qui deviendra Pif après, 173 épisodes. Alors, au début, c'est une histoire qui s'appelle Nanar, Jujube et Piette. L'intégrale a été rééditée chez Glénat en 2006. Guéluron va voler la vedette à tout le monde. La série fait 11 tomes, on a deux intégrales de 75 à 86 et ça a été réédité, colorisé avec les titres manquants en 2016. On va se concentrer sur le dernier album de Guéluron qui est aussi le dernier album dessiné par Gottlieb qui arrête de dessiner en 86. C'est l'album Guéluron Slip, la bataille navale, qui a été réédité par la suite en 90. Alors Guéluron a été pré-publié dans Pif, dans Fluide Glacial, et là, dans ce dernier opus, Gottlieb se lâche, il dit adieu à ses personnages et va revisiter une partie de sa carrière. Avec Guéluron, on peut dire que Gottlieb a créé sa marque, a trouvé son trait et son art du découpage. Alors, c'était dans le journal Vaillant, au début, le journal 907, en 62. La série s'appelait Nanar et Jujube, puis Nanar, Jujube et Piette, et ensuite Nanar et Guéluron. On a eu toute une série d'histoires. Voilà. Marcel Gottlieb rappelait l'importance de sa carrière pour l'histoire du 9e art. Il naît à Paris en 34 et le drame de sa vie, ça va être la déportation de son père quand il a 8 ans. Il est engagé comme lettreur au journal de Mickey. Il fait une page hebdo pour Vaillant en 62. Il crée Guéluron en 64. Et là, il va rentrer en pilote un an plus tard, en 65. Et il va avoir une amitié filiale avec René Goscinny. Ça va donner une encyclopédie, les Dingo Dossiers. Dans la foulée, il va créer tout seul Rubrique à Brac, dans Pilote, en 68, inspiré par l'esprit de Mad. Il va scénariser Cinéma Stock pour Alexis, où ils vont parodier ensemble des classiques du 9e art. Grand amoureux de musique, Marcel va dessiner pour Rock and Folk le personnage de Hamster Jovial et de ses louveteaux Destroy. Il va ensuite créer un grand monument de la presse BD, c'est l'Écho des Savanes avec Bretéché et Mandrika en 72. Bon, il va partir au numéro 10, il a pas mal de difficultés financières. Il va inventer Super Dupont avec Jacques Loeb en 72 pour Pilote et ensuite l'Écho des Savanes. Et le grand moment créatif, c'est avec son ami Jacques Diamant, qui lui est un bon gestionnaire, il va créer Fluide Glacial en 75 et à ce moment-là, il va produire près de 20 planches par mois. Alors là, Gottlieb va se lâcher, c'est ses albums Trash, Ragnagna, Ralovli, Pervers Pépère, avec des chutes qui vont être éditées dans Truc en Vrac. Il arrête de dessiner en 86. Le dernier album, c'est celui dont on va parler, Guéluron Slip. Et on peut dire qu'il va quand même continuer à dessiner des couvertures de Fluide Glacial. Il en aura fait 29 jusqu'en 82. Il aura participé au roman photo de Léon Dry et il fait des éditos jusqu'à l'an 2000. Voilà, pour les 25 ans de Fluide Glacial. Alors, Gottlieb, c'est aussi un grand scénariste. Hein. Écrire des histoires drôles, c'est un art de la débilité. Il en parle avec Dumas Sadoul. Et cette idée de parodier la culture pop et aussi de se parodier soi-même. Ça, c'est un grand art de chez Gottlieb. Alors, on a une évolution d'un humour assez gentillet dans Pif, hein, en 65. Alors, cet humour de Marcel, il mélange l'humour juif anglo-saxon avec l'humour plutôt à base de jeux de mots, l'humour plus français, et on va avoir un sens du running gag régulier chez lui. Et on a effectivement presque cette idée d'un personnage Gailuron qui serait un pif un peu plus étonnant, un peu plus mou, hein, puisqu'en fait, Gailuron va bavarder, il s'endort régulièrement, et il y a une rupture du quatrième mur. Gailuron va interpeller le lecteur et son auteur dès le tome 4 en 78, et puis une langue fleurie à la Brassens avec des aphorismes, notamment celui-là, je suis marxiste, tendance Groucho, et militariste, tendance Sergent Pepper. C'est intéressant de voir que l'art du dialogue de Gottlieb, c'est aussi, on l'a dit, dans les éditos, hein, qui ont été repris en recueil dans les jactances. Alors, on va écouter les planches 1, 2 et 3 de Gailuron en slip et revenir un peu sur une analyse de ces trois planches. Gailuron en slip, planche numéro 1. Sous-texte, mit grosse schmanka. Gailuron jure et il souffle. Oh là là, je vous jure. Un escargot se promène en bas de la case.
Trois quarts d'heure que je fais le pied de grue. En matin, on n'a pas été foutu d'être une fois à l'heure.
Voilà au loin, belle lurette.
You, monsieur Gailuron, me voici. Je suis un peu en retard.
Ah, c'est pas trop tôt.
Ah oui? Quel beau temps.
Ouais.
Le printemps approche, les années ont passé, mais c'est toujours aussi merveilleux de flâner à vos côtés, comme autrefois.
Oui.
C'est la grande fête de la nature, le grand renouveau annuel. Les bourgeons apparaissent au bout des branches, la sève monte. Oh, c'est tellement, si tellement... Hein.
Oui.
Et nous voilà, comme à chaque année, marchant côte à côte, ma main blottie dans la vôtre, comme un oiseau au creux de son nid. Ah oh, content de pureté, mon Dieu.
Oui.
Soupir. Ah, nous sommes là tous les deux.
Oui.
À l'abri des regards.
Oui.
Rien que vous et moi.
Oui.
Ne pourrions-nous pas, eux?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas?
Oui.
Pourquoi ne ferions-nous pas une petite partie de bataille navale, hein? Comme au bon vieux temps. J'ai apporté tout ce qu'il faut, tenez.
Ouais.
Des papiers, des crayons, tout.
Ah ouais,
Tenez. Bon alors, écoutez, Galurette. Hein. Écoute-moi. Tu ne crois pas qu'il serait temps de laisser tomber les batailles navales, marelles et autres innovantes faraboles juvéniles, hein? Tu ne crois pas qu'on pourrait passer à des choses plus sérieuses, non, hein? Enfin, belle lurette, nous ne sommes plus des enfants, hein? Tout ça, c'est du passé, non? Oh, Gailuron, vous êtes fou. Ah, non, ah. Oh, belle lurette, combien de temps allons-nous enfin encore jouer à cette bataille navale? N'entends-tu pas ces appels vibrants de nos cœurs, de nos corps, de nos sens, hein? Belle lurette, je t'aime depuis si longtemps, moi aussi. Et là, voilà, planche totalement hachurée. Ça fait si longtemps que j'avais envie de te serrer contre moi. Serre-moi plus fort. Belle lurette, oui, Gailuron, viens, venez, vos lèvres.
Et là, apparaît Gottlieb. Observons un moment les deux profils de l'image ci-contre, puis tentons de visualiser à partir de leur morphologie. Comment les lèvres vont s'écraser les unes contre les autres, nous nous trouvons là devant une situation peu commune. Amusez-vous à faire quelques croquis, vous verrez, c'est loin d'être évident. Nous avons ici un tableau représentant les deux profils en coupe. Ces derniers devront pouvoir s'encastrer parfaitement, afin de permettre aux lèvres de se joindre. C'est un problème de topologie, n'est-ce pas? Certaines solutions s'avère d'emblée inadéquate. En effet, inutile de vous casser la tête, seul un vieux pro de la BD est à même de résoudre ce genre de problème, et grâce à l'expérience qu'il a accumulée durant de longues années, hein, de métier, voyez-vous-même. C'est simple, il fallait y penser.
Hein. Au Guéliron, je vais me donner à vous. Vous serez le premier. Oh, belle lurette. Oh, attendez, oh, belle lurette. Bon, eh ben, hein, après cet exposé de figuration narrative, moi, je vous laisse. Retour sur nos deux personnages. Venez, Gueuliron, venez vite. Oh, attendez, Gueulirette, une petite minute, hein. Chaque chose en son temps, on se calme, on va se remettre de soi, on ne s'essaye pas. Je ne peux plus attendre, voilà, j'arrive. Je viens, et là, il enlève son slip. Et hop, et la chienne de hurler. Ah ! Mais, bah alors, oh, il vide son slip de plein d'objets qui tombent à terre. J'aurais pourtant juré. Il y a des trucs vraiment durs à avaler. Eh oui, belle Irette, qu'est-ce que tu veux ? Des fois, en enjolivant le passé, on présage trop de l'avenir, ou alors c'est qu'on a trop joué à la bataille navale. Je ne vois pas le rapport. Sexuellement parlant non plus, le temps qui passe nous joue des tours de cochon. Alors, j'ai 12. Et allez donc, on continue à casser la boule. Torpilleur coulé. Alors, on a quelque chose à la fois de classique et de révolutionnaire. C'est un grand paradoxe, puisque sur la forme, c'est un gaufrier classique. On a une dizaine de cases à chaque fois. On a ces petits animaux en second plan, l'escargot et le lapin qui a l'air totalement shooté, qui vont venir et qui vont courir, dialoguer dans cette narration graphique. Et un grand contraste entre deux tempéraments, Belle Lurette qui est plus trop extravertie, Guirette et Guéluron qui lui répond de façon laconique, hein, est un peu en mode, on va dire, dépressive. Hein. Le cœur de ces trois planches, c'est la déstructuration des trois cases centrales de la planche 2, où l'histoire d'amour, parce qu'en fait, c'est vont-ils consommer, hein, c'est la question de la sexualité qui jusqu'à présent dans PIF était suggérée. Là, ça devient explicite et là on a une espèce de brouillage avec première case avec du noir, deuxième case avec une espèce de crayonné, et troisième case en forme d'ombre chinoise. Donc c'est très étonnant cette façon de déstructurer les planches et on arrive vraiment à quelque chose de surréaliste, puisque tout de suite après, c'est Gottlieb qui intervient à propos de comment on dessine des gens qui s'embrassent. Donc il va donner, comme dans les rubriques à braque, une espèce de cours de dessin qui est un peu qui vient rompre le gros suspense. Et donc on voit à la fin, dans la planche d'après, la rupture du suspense, c'est-à-dire la fin de l'innocence qui est impossible à dessiner finalement, puisque Gueuliron n'a rien sous son slip, même s'il a pris conscience qu'il était nu, et qu'il fallait mettre un slip. Voilà. Et on a cette idée qui est présente dans l'album de la métaphore de la bataille navale pour parler de la guerre des sexes et de la sexualité, puisqu'en fait c'est toute cette question qui est traitée dans cet ultime album de la série. Alors, nous rappeler que Guéluron, c'est un chien. C'est un chien, c'est le chien du voisin, le père Laglume. Il a des origines bretonnes, hein. Il s'est fabriqué des crêpes, on le voit dans le tome 6 en 79, se revendiquer de cette culture. On peut dire que c'est l'antithèse de Gottlieb Guéluron. Hein. Gottlieb est insomniaque et Guéluron, lui, passe son temps à dormir. On peut dire que comme Gaston Lagaffe pour Franquin, qui est un des maîtres de Gottlieb, Guéluron, ça serait presque son moi idéal. Alors, il a une physionomie placide, on peut dire que c'est un débonnaire, un peu neurasthénique quand même, en tout cas un grand calme. Est-ce qu'il est triste ? Il serait plutôt indifférent. Intelligent, peut-être, je m'en foutiste, limite odieux. Rêveur, on l'a même dessiné, il rêve qu'il rêve. Peut-être un peu philosophe, hein, avec une citation... Un chien endormi est un chien à moitié éveillé. Alors, il est assez timide avec les filles, et tout l'enjeu de cette histoire avec Belle Lurette va être que dans cet album, Guéluron va se lâcher à l'écoute de sa libido. Il est souvent prolixe, avec des phrases sans ponctuation. Il va maîtriser l'art du déguisement. Et on peut dire que finalement, petit à petit...
il aurait peut-être tendance à devenir un peu un tyran égocentrique sur la fin. Voilà. Alors, l'univers de ce personnage est très mystérieux, puisqu'en fait, il y avait une famille au début, hein, avec mais cette famille a disparu. Hein, c'était donc Nanar qui vivait avec ses deux oncles, Blaise et Basile. Et, où sont les parents? La cousine, Piette, le renard apprivoisé, Jujube, hein, qui est plutôt l'image du moi dépressif de Gottlieb, ce Jujube. Alors, cette vie à la campagne, qui se fait de façon très guirette. Et puis, le quatrième mur, avec cette idée que Guéluron va, à un moment donné, répondre à un lecteur, Jean-Pierre Liégeois, qui est le nom du beau-père de Gottlieb, avec, on va découvrir après, que Jean-Pierre Liégeois n'est pas l'enfant qu'on attendait. Donc, cette déstructuration aussi de cet univers... Voilà, et la petite souris en bas des pages commente le gag, devient rival et est souvent martyrisé par Guéluron. Et suite à ça, on va avoir un autre animal qui va devenir l'animal totem de Gottlieb. C'est très bien expliqué dans la biographie scénarisée par Arnaud Le Gouëflex. Cette coccinelle, c'est vraiment une des clés pour comprendre l'histoire de Marcel. Et l'histoire de Guéluron, c'est... Au début, déjà dès le tome 2 en 76, l'histoire d'un amour impossible avec une caniche qui s'appelle Dolly. Belle Lurette, elle apparaît dans le tome 8 en 80. Et là, du coup, il y a cette espèce de coup de foudre. Elle va même évincer Jujube, qui était l'ami de Guéluron. Et donc là, dans le dernier album, tout l'enjeu des relations entre le chien et cette petite chienne sont présents. Alors, les influences graphiques de Gottlieb, elles sont multiples. On peut parler de l'influence de Mad Magazine, des grands réalisateurs, auteurs comme Kurtzman, Hogarth, qui a dessiné Tarzan, bien entendu Franquin et Gaston, Sampé, et aussi Greg, pour le personnage d'Achille Talon dans Pilote, qui, bien sûr, Gottlieb publiait aussi dans Pilote. Alors, les références très claires pour Guéluron, c'est le Droupi de Tex Avery. On pense à l'histoire qui ronronne dans le tome 3, le duel de la fourmi du Tamanoir, le non-sens gagaise des Monty Python, et puis cette idée de la Beat Generation, une espèce de mouvement hippie. On peut penser au pogo de Walt Kelly aussi, et puis cette grande cinéphilie de Gottlieb où par moments il peut y avoir des expressions à la Louis de Funès, un burlesque à la Chaplin Keaton, et un art du découpage. Éclaté, il y a des références aussi au Citizen Kane d'Orson Welles. Alors, le style de Marcel Gottlieb, il est assez unique. Il a été caractérisé par le fait qu'il soit élastico-réalistico-comique. En tout cas, c'est un style que Marcel s'est inventé puisqu'il était autodidacte. C'est très fin, très méticuleux, très anatomique. Par moments, il va dessiner faux exprès, hein, il va marier un ton souple et nerveux, et Guéluron va évoluer vers plus d'arrondi. Gottlieb a beaucoup de difficultés avec les paysages et les décors, hein, et souvent il a passé ça à par exemple, Super Dupont, et passé à Solé très vite, puisque tout ce truc dans dans un univers urbain avec des voitures et compagnie, il n'aimait pas trop. Et il aime beaucoup Gottlieb se concentrer sur les visages, les expressions et les grimaces. C'est tout l'art de la pantomime. Et aussi, par moments, il y a des strips totalement silencieux qui parlent d'eux-mêmes. Les corps sont bien entendu, on l'a dit, élastiques, rebondissent. Il n'y a jamais de mort, on n'est jamais de blessé. La case est un écran, hein, un théâtre de marionnettes, souvent avec cette rupture du quatrième mur et avec une dynamique dans une gestuelle. Voilà. Alors, les grandes thématiques de Guéluron, c'est finalement toute une série de parodies de la culture populaire. Parce que Guéluron va se mettre à jouer des personnages. Ça va être Guéloro, Guélurcouf, Guélurzan, Guéluroja, avec à chaque fois une forme de dérision. Parfois limite nihiliste, hein, sur tout ça, ça finit pas bien, mais bon, c'est pour de rire. Alors, il y a aussi l'idée de la nature, la vie bucolique dans la nature, et cette dualité entre nature et culture qui va s'exprimer dans le dernier album sur la question de la sexualité. Et on a, au fil des albums, une grande charge contre la publicité. Alors, la postérité de Guéluron. Bah, et l'histoire de Guéluron, elle est importante puisque c'est vraiment le personnage central de Gottlieb qui reste. Le tome 2 est sacré meilleur premier album à Angoulême en 76. Gottlieb obtient le Grand Prix en 91. On a même ensuite donc Guéluron Poche. Les tomes 1 et 2 seront dessinés par Gottlieb. Après, on aura 37 tomes de 67 à 76, et là c'est Dufresne qui reprend. Gottlieb en a eu un petit peu marre de ce personnage, il en avait vite fait le tour, il sentait que avec Pif et Vaillant, il n'allait pas pouvoir totalement faire ce qu'il voulait faire, d'où l'album de 86 qu'on a évoqué là, où là il a ouvert les vannes. Donc cette suite par Dufresne, elle s'est arrêtée en 74, des albums pirates existent. On a la biographie importante écrite par Gottlieb, J'existe mais je me suis rencontré, en 93. Et l'influence de Gottlieb, il est aussi sur les nuls, hein, les épisodes entre le commissaire Bougré-Charolles, aussi sur Laurent Baffy, qui va beaucoup prendre tout ça. Le cinéma de Patrice Lecomte, les WC étaient fermés de l'intérieur. Le cinéma de GB et Doyon, où Gottlieb apparaît, c'est l'an 01. Jeu et les acteurs aussi de Gérard Kravitz, et après malheureusement l'échec d'une production autour de Super Dupont. Il va produire Gottlieb une série animée autour de son personnage phare, la Coccinelle, où il revisite un peu l'histoire de l'art. Et au niveau des dessinateurs, Zepp, Larsenet, Blutch, Trondheim et Gellu se réclament souvent de Marcel Gottlieb. Guéluron est repris en 2016 pour 3 albums, alors avec Pixel Venger, Fab Caro, puis d'autres scénaristes, mais on peut dire que la sauce ne prend pas, malheureusement. Alors, l'intérêt, c'est que depuis 2023, on a le prix Gottlieb de la BD d'humour, qui est remis au Festival du Livre de Paris en avril, avec le sacrement de Larsenet, MoCDM et Book. Voilà, donc Gottlieb est toujours vivant. Guéluron reste un chef-d'œuvre à faire lire à tout le monde. Alors le dernier opus qu'on a évoqué est plus pour les ados, pour les petits-enfants, on va dire, vu la place tenue par la sexualité. Et au fil des albums de Guéluron, émerge une espèce de méta-BD sur l'acte créatif. Ça sera vraiment la fin de l'album. On n'a pas voulu vous le détailler, puisqu'en fait on va vous laisser la surprise de cette fin, qui est aussi un adieu de Gottlieb à la bande dessinée, c'est très émouvant. Et Gottlieb a investi ses animaux d'une manière d'être décalée d'être au monde, il les a amenés à se déguiser, et la bête se fait le bête souvent. Guéluron interpelle les lecteurs et parfois son créateur, on peut dire que c'est un clown philosophe, miroir de son auteur, qui va distiller l'air de rien, une ode à la joie de vivre. Alors ça, c'est assez étonnant, finalement, c'est très paradoxal. On peut se demander si Guéluron n'est pas une parabole implicite sur l'éveil, une forme de détachement au monde, c'est-à-dire être débonnaire, qu'est-ce que ça signifie? Avec Guéluron, Gottlieb a réussi la conjonction de l'art du rire à l'art du zen. Merci Marcel de nous avoir transmis ton rire, parfois bête, jamais méchant et toujours désopilant.